Mémoire vive.
Présentée par Christelle Le Polothèque.
Et préparée par Rachel Rimard. Une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Nous recevons aujourd'hui Philippe Saada, réalisateur, et Michel Lafitte, historien. Toutes deux auteurs du documentaire Drancy 1941-1944, un camp aux portes de Paris, que l'on pourra voir lundi 1er octobre à 22h40 sur France 3. Avec l'inauguration récente du mémorial de la Shoah à Drancy, ce camp d'internement sort du non-dit dans lequel il était tombé depuis des décennies. Votre film, Philippe Saada, Michel Lafitte, revient sur l'histoire à la fois très proche et pourtant mal connue de ce camp situé à quelques kilomètres de Paris. La cité de la Muette, conçue dans les années 30 par deux architectes d'avant-garde, Marcel Lodz et Eugène Baudouin, était destinée à devenir un fleuron du logement social. Mais dès 1941, cette barre d'immeubles en U va devenir un camp d'internement où vont transiter, dans des conditions infâmes, plus de 80 000 juifs, dont 67 000 seront déportés vers les camps en Pologne. Ces chiffres montrent à quel point Drancy était au cœur du dispositif de déportation des juifs durant la Seconde Guerre mondiale. En France, sur les 76 000 juifs déportés, 67 000 sont passés par Drancy. Aujourd'hui, et depuis 1948, la cité de la Muette a retrouvé sa destination initiale, c'est une cité HLM de la banlieue proche de Paris. C'est ce paradoxe, cette situation extrêmement troublante d'un camp reconverti en lieu d'habitation, d'un camp véritablement ancré dans la ville, avec les gardiens qui habitent les immeubles voisins, qui est le point de départ de votre film, Philippe Saada.
C'est le paradoxe, le premier paradoxe qui a déclenché, en fait, qui a déclenché mon envie de faire le film, parce qu'effectivement, c'était très, très, très troublant de voir cet immeuble qui a l'allure d'un immeuble comme il y en a des tas dans la banlieue parisienne, si proche de Paris et qui a servi de camp d'internement.
Michel Lafitte, est-ce qu'on sait concrètement les raisons qui ont amené à choisir ce lieu ? En 1940, par exemple, à quoi servait la cité de la Muette ?
Alors la cité de la Muette a d'abord été conçue pour interner des communistes qui étaient perçus comme une sorte de cinquième colonne à la fin de la Troisième République. Ensuite, elle a été utilisée par les Allemands comme un camp d'internement de militaires anglais, canadiens, à ma connaissance, avant d'être entièrement consacrée à l'internement exclusif des Juifs du mois d'août 1941 jusqu'à la libération de la région parisienne au mois d'août 1944, c'est-à-dire 4 années pleines.
La situation géographique de Drancy était aussi particulièrement importante.
Oui, mais au moment de la rafle du 20 au 23 août 1941 dans l'Est parisien, la rafle de Drancy, les premiers jours on rassemble des Juifs, la présence de la gare du Bourget n'est pas déterminante, puisque à l'époque la cité de la Muette est perçue comme un camp de représailles. La déportation ne sera pensée qu'à la fin de l'année et au début de l'année 42.
Voilà. D'ailleurs, quelle est la dénomination exacte du camp de Drancy ? C'est un camp d'internement, un camp de transit, Michel Lafitte ?
On retrouve dans les sources l'expression camp de concentration, mais c'est une réalité qui évolue, puisque le camp de représailles de la fin de l'année 41 ne ressemble pas tout à fait au camp tel qu'il est organisé à partir du mois de juin 1943 par le commando SS d'Alois Brunner. Et dans notre ouvrage avec Annette Dvorka, dont le film est un peu un prolongement, nous avons insisté sur le fait que l'expression camp de concentration désignait davantage la période Alois Brunner, juin 43, août 44, tellement l'organisation du camp par les SS ressemblait à l'organisation des camps de concentration de l'Allemagne nazie, tel Buchenwald, avec une police juive, avec une administration juive aux ordres. Et la perversité des nazis qui tentent de déléguer leur travail et qui tendent à diviser la masse des internés.
On va revenir à cette période d'administration allemande. Mais tout d'abord, votre film Philippe Saada est construit à partir d'images d'archives, également d'images du Drancy d'aujourd'hui. Il y a aussi des témoignages d'historiens comme Annette Viviorca, Tal Brutmann, mais surtout des témoins, ces hommes et ces femmes qui ont été internés au camp de Drancy. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans leurs témoignages, Philippe Saada?
Ce qui m'a le plus marqué, alors c'est tous les témoins sont pas exactement, ils sont pas identiques parce qu'ils sont pas passés par Drancy dans les mêmes conditions, ils avaient pas le même âge. Dans le film, il y a trois témoins qui sont passés à Drancy à l'âge d'enfant, et donc ils ont des souvenirs d'enfant, qui sont des souvenirs terribles et très vagues, comme on peut en avoir, c'est-à-dire des souvenirs extrêmement puissants, mais sans précision. Puis j'ai les témoins qui avaient l'âge, qui étaient plus âgés, qui avaient 20 ans, 25 ans. Et leurs souvenirs ne sont pas les mêmes, d'autant que le malheur est que les enfants dont j'ai pu avoir le témoignage, enfin ceux qui étaient enfants, par définition, ce sont des gens qui ont quitté Drancy, enfin qui ne sont pas partis pour les camps de Pologne, puisque s'ils étaient partis pour les camps de Pologne, hélas, ils ne seraient plus là aujourd'hui pour en parler. Pour les autres, pour les adultes, eux sont partis pour la Pologne et donc ont eu l'expérience d'Auschwitz. Donc leur regard sur Drancy, évidemment parce qu'ils sont passés par Auschwitz, n'est pas du tout le même que ceux qui enfants ne sont pas partis en Pologne. C'est vraiment deux témoignages d'ordre différent.
Oui, un des témoins dit notamment qu'à côté d'Auschwitz, Drancy c'est...
C'est le paradis. C'est le paradis, c'est Marceline Loridan-Evans qui le dit, parce qu'effectivement, pour elle, bon, d'abord Drancy, c'est un mois et demi de sa vie. Et je pense que l'expression la plus juste, c'est de se dire que pour les gens qui sont partis en Pologne, qui sont partis à Auschwitz, puisque la plupart des Juifs de France sont partis à Auschwitz-Birkenau, Auschwitz-Birkenau a totalement écrasé Drancy, c'est évident.
Pour les témoignages de ceux qui étaient enfants à l'époque, je pense notamment à Jean-Claude Moscovici, dont la mémoire, est, malgré tout, même si vous dites qu'elle est parcellaire, est quand même extrêmement présente, notamment quand il parle de son arrestation.
Ah oui, alors j'ai du mal à exprimer, parce que par parcellaire, non, c'est-à-dire que c'est des souvenirs d'enfants au sens où c'est des... Je discutais avec Michel Muller, qui était un autre témoin du film, qui était enfant, et il dit que sa mémoire fonctionne par flash, c'est-à-dire que il se souvient de choses avec précision qui sont des moments de vie quotidienne, ou des moments évidemment très forts qui sont les moments de l'arrestation. Ce qu'il n'a pas, c'est ce qui se passe entre ces moments. Ça, c'est effectivement, c'est vague et c'est flou, mais pour un enfant, le souvenir de l'arrestation, le souvenir d'avoir été jeté dans ces grandes chambrées sans rien, évidemment, c'est des souvenirs qui gardent une précision, une acuité aujourd'hui. Enfin, c'est comme si c'était hier.
Ce qui est très surprenant aussi avec ce témoignage de Michel Muller, c'est qu'il restitue avec minutie son arrivée à Drancy et en même temps il en parle avec énormément de distance, en tout cas sans pathos.
Ah oui, mais ça alors vraiment ça tient pour le coup aux personnalités de chacun des témoins. J'ai rencontré d'autres témoins qui sont... pour lequel le souvenir est beaucoup plus... Enfin, en tout cas, qu'il l'exprime de manière différente. C'est vrai que Michel Muller, il a une forme de distance, j'allais dire parfois presque d'ironie, mais faut aussi voir qu'effectivement, comme ils étaient enfants, et comme Moscovici, ils ne se sont pas tellement... Ils se sont sentis effroyablement oppressés, sans jamais comprendre pourquoi ils étaient là. Donc, je crois que Michel Muller, il tenait dans son témoignage à restituer l'incompréhension totale qui a fait que lui, il avait 5 ans, qu'il avait une petite sœur qui en avait 7, enfin une grande sœur, et qu'ils y ont passé 15 jours sans jamais comprendre qu'est-ce qui fichait dans un endroit pareil, avec tellement de... enfin, dans cette horreur, quoi.
Certains se souviennent aussi de leur indignation, Michel Laffitte, alors qu'ils sortent du camp, face à l'indifférence des habitants de Drancy, qui passent quotidiennement devant la cité de la Muette et qui savent, ou du moins qui se doutent de ce qui s'y passe. Cela pose aussi la question de ce camp au beau milieu de la ville.
Oui, effectivement, mais aucune enquête n'a été tentée à ma connaissance dans les années après-guerre. Il est évident que le camp est au cœur d'une agglomération. Il est évident que les allées et venues des convois, des juifs arrêtés chaque soir, ceux qu'on appelle les Paris soirs, qui sont dans le langage du camp, qui sont raflés en région parisienne. Tout cela, la population environnante le voit, bien évidemment, et doit entendre également les cris, parce que 4000 personnes rassemblées ainsi, ça fait beaucoup de bruit. Et effectivement, il est dommage qu'aucune enquête n'ait été tentée dans les années d'après-guerre.
Il y a également l'UGIF, l'Union Générale des Israélites de France, qui revient très souvent dans le discours des témoins de votre film.
L'Union Générale des Israélites de France, qui, je le rappelle brièvement, a été créée en novembre 1941 par le gouvernement de Vichy pour rassembler et surveiller les communautés juives, cristallise beaucoup d'espoir parmi les internés de Drancy, puisque à la fin de l'année 1941, l'UGIF est chargé d'approvisionner les internés qui sont coupés de leur famille et de servir de lien avec leur famille pour les colis de vêtements, les colis de vivres. Et à partir du premier convoi de déportation, l'UGIF doit fournir l'équipement des déportés qui sont au mois de mars 1942, au départ des déportations pour le travail. Et donc l'UGIF a un rôle ambigu, donc cristalliser les espoirs et en même temps faciliter la marche de l'organisation du camp.
Certains des témoins ont pu sortir du camp grâce à l'UGIF, en tout cas échapper à la déportation. Est-ce qu'on sait, Michel Lafitte, combien de personnes ont pu sortir libres de Drancy et par quels moyens?
Alors, il y a plusieurs moyens de... échapper de Drancy, c'est très ambigu, puisque vous avez, à partir de l'été 43, ceux qu'on appelle les conjoints d'Ariane, qui ne sont pas vraiment libérés, qui sortent de Drancy, mais c'est pour gagner d'autres camps d'internement à Paris, Bassano, Lévitan, ou dans les îles anglo-normandes. Alors là, ça représente quelques milliers de personnes. Il y a quelques centaines d'enfants qui sont sortis du camp et qui rejoignent les foyers de l'UGIF et qui sont dits enfants bloqués en attendant une prochaine déportation, en attendant qu'on retrouve des membres de leur famille. Alors, certains de ces enfants retournent au camp, sont arrêtés lors de différentes rafles en février 1943, l'une à Marseille en octobre 1943, et puis enfin les fameuses rafles dans les foyers de l'UGIF fin juillet 1944. Donc c'est une comptabilité très complexe.
Sur les 80 000 juifs qui ont transité par Drancy, 67 000 ont été envoyés à Auschwitz-Birkenau. Combien en sont revenus, Michel Lafitte ?
Alors, 67 000 ont été envoyés dans des centres d'extermination de Pologne, avec la particularité d'un convoi au mois de mai 1944 qui était composé d'adolescents, d'hommes adultes qui ont été dirigés vers les pays baltes. Parmi les membres de ce convoi, il y avait d'ailleurs le père et le frère de Simone Veil. Alors le retour s'est déporté. Il y a très peu de survivants. On évalue à 2500 le nombre de survivants. Aucun enfant. Et donc le sort fait aux Juifs est très particulier. Il n'a rien à voir évidemment avec le sort des déportés résistants, où le nombre de survivants est bien supérieur.
Est-ce qu'on a des chiffres sur la mortalité à Drancy? Parce que vous parlez dans votre film de conditions de vie effroyables.
Alors, ça a été une grande difficulté. Là aussi, on avait évalué à peu près 200 morts au cours des grandes rafles de l'été 42. Mortalité à l'infirmerie du camp, dans les conditions d'hygiène effroyables qu'on connaît, l'épidémie de suicide de l'été 1944, où des internés désespérés se défenestrent. Mais nous avons eu des difficultés à retrouver l'emplacement des fosses où les corps de ceux qui sont morts dans le camp ont pu être enterrés. On n'a pas la réponse à ce sujet à l'heure actuelle.
Est-ce que vous avez pu accéder facilement aux archives, Michel Lafitte?
Oui. L'accès aux archives a été très facile. C'était pour l'essentiel, c'était les archives concentré au mémorial de la Shoah, mmh. et puis les archives à la préfecture de police, où Annette Dvorka s'est rendue, au mémorial de la Shoah, grâce à la responsable des archives, Karen Taïeb, nous avons eu accès à des documents exceptionnels. Je pense en particulier à la correspondance de Paul Zuckerman, qui a été jusqu'au mois de septembre 1942 adjoint du commandant de l'administration juive du camp, et qui livre un témoignage absolument fabuleux dans la correspondance clandestine qu'il entretient avec sa fiancée Berthe Rachlin, et qui dévoile des aspects absolument méconnus de la vie du camp. Alors ça, c'est dans le livre que j'ai publié avec Annette Dvorka, et ça apparaît davantage en creux dans le film de Philippe Saada. Voilà.
Et quels sont ces aspects? Si vous pouvez nous donner quelques exemples brièvement.
Bon, je prends quelques exemples, par exemple. Alors là, on l'a pas directement évoqué dans le film, mais ce que nous révèle, par exemple, un exemple parmi d'autres, la correspondance de Paul Zuckerman, c'est les affaires de dénonciation, de trahison entre internés dont se servent les Allemands, la manière dont Dan Ecker, le conseiller SS aux affaires juives, procède aux arrestations sauvages dans Paris pour remplir les convois. Et je pense à cette correspondance au sujet du convoi, l'un des premiers convois au mois de juin 42, où Paul Zuckerman nous raconte que un interné en dénonce d'autres afin de gagner les faveurs de la SS, et qui cet interné qui est finalement déporté à son tour. Et finalement, ces correspondances clandestines nous révèlent des profonds clivages au sein de la masse des internés.
Oui, vous évoquez notamment dans le film le clivage entre les Champs-Élysées et Belleville, c'est-à-dire entre les deux types de populations internées dans le camp.
Oui, c'est oui,
là, avec c'est un plus langage social,
propre aux internés, mmh. qui se développe et qui semble intérioriser le langage des antisémites en parlant de ces juifs immédiatement déportables qu'on nomme les Youpins dans le langage du camp, qui est une injure antisémite.
C'est-à-dire les juifs étrangers.
Oui. Avec les Israélites qui occupent des professions de médecins qui sont relativement épargnés. Donc il n'y a pas d'égalité face à la déportation. Et comme le dit Annette Dvorka dans le film, on retrouve dans le camp de Drancy une reproduction des clivages sociaux propres à la société française.
Votre documentaire, Philippe Saada, met en avant deux périodes distinctes dans l'histoire du camp. J'aimerais que l'on revienne à la première période, c'est-à-dire au moment où le camp était administré par les Français.
Oui, en fait, il y a deux périodes dans l'histoire du camp. Le camp est d'abord administré par les Français de d'août 41 à juillet 43. Puis à partir de juillet 43, il est pris en main directement par les Allemands. Et dans cette période où les Français s'occupent de l'administration du camp, il y a une toute première période qui était un peu méconnue et qui... Ah bon. Il y a une première période qui est méconnue, qui est celle où le camp est un camp d'hommes, exclusivement, et où les Allemands ne procèdent pas encore aux déportations. La solution finale n'est pas... ils sont en train d'en discuter, mais elle n'est pas encore à jour, et donc c'est un camp de représailles, c'est un camp d'hommes. Alors maintenant, sur le passage, les différences qu'il y a entre l'administration française et l'administration allemande, Michel l'a évoqué tout à l'heure, c'est un changement caractéristique, c'est vraiment... dans mon film, il y a des témoins qui étaient là pendant les deux périodes, qui ont vu le passage de l'administration française à l'administration allemande. Ça a changé du tout au tout. D'abord parce qu'effectivement, il y avait une armature administrative française, il y avait énormément de gendarmes qui s'occupaient de tas de choses à Drancy, notamment la surveillance, la répression, etc. Les Allemands n'étaient pas très nombreux quand ils ont pris le commando Brunner qui prend possession du camp. Ils doivent être une douzaine, une quinzaine au grand maximum. Donc toutes les tâches qui étaient auparavant dévolues aux Français ont été données aux internés juifs, ce qui a effectivement envenimé les rapports entre les internés, parce qu'il y avait des situations de privilège qui était donné à ceux qui avaient des, enfin, qui avaient des fonctions à l'intérieur du camp. Michel l'explique très bien dans son livre, on le voit un petit peu dans le film. Michel explique très bien que pour Brunner, les situations de privilège à l'intérieur du camp, c'est-à-dire avoir des fonctions d'administration, c'est pas une sinécure, ça va pas vous éviter la déportation. C'est temporaire et c'est un moyen, comme les gens qui sont à, je sais pas, à l'administration juive, les gens qui s'occupent de l'administration juive, ils savent très bien que Brunner peut, pour une raison ou pour une autre, les déporter à leur tour. Donc, ça entretient un climat de défiance et d'animosité très très caractéristique des camps de concentration de type Mauthausen, Buchenwald, enfin, ce dont parlait Michel tout à l'heure. Et c'est vraiment un changement par rapport à la période où l'administration française s'en occupe, de 41 à 43. Où c'est beaucoup plus... Sous l'administration française, c'est brutal, c'est la pagaille, mais ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a rien à voir. La déportation, de toute façon, le fond, c'est que les convois partent. Mais c'est vrai que c'est un changement de climat très, très important.
Alors, j'aurais une dernière question pour vous, Philippe Sada ou Michel Lafitte, celui qui voudra répondre. Les habitants de la cité de la Muette, ceux d'aujourd'hui, apparaissent sous forme de silhouettes, notamment à la fin du film. Est-ce qu'ils ont conscience de l'histoire du lieu qu'ils habitent, ou est-ce que c'est quelque chose qu'ils maintiennent à distance ?
Grande question. C'était une possibilité. Je me suis beaucoup interrogé, moi, sur quand j'ai fait le film. Est-ce que
très brièvement.
Oui, est-ce qu'ils de les faire intervenir ou pas. Ils vivent dans un endroit qui est, il y a beaucoup de plaques, il y a des statues, il y a des scolaires qui viennent en permanence. Que ce qu'ils en savent, que ce qu'ils en retiennent, c'est une question. Voilà, c'est habiter un lieu très très particulier. Je pense qu'ils doivent ça. Ils savent qu'ils habitent pas dans une cité banale. Mais voilà.
Et c'est des populations très modestes hein, qui touchent des aides sociales. Et ce qui, cette cité de la Muette, qui était vraiment conçue comme, comme un ensemble de logements sociaux à la pointe du progrès, maintenant, la population a changé. Mais je voulais rappeler que c'est au temps de l'internement des Juifs, les appartements ne sont pour les deux tiers ne sont pas aménagés.
Oui, absolument. Oui, c'est ce que vous précisez dans le documentaire. Merci à vous, Philippe Sada, Michel Lafitte.
Merci.
Et je rappelle donc que votre documentaire Drancy 1941-1944, un camp aux portes de Paris, produit par Roche Productions avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, sera diffusé lundi 1er octobre à 22h40 sur France 3. Merci à tous.